Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h08 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Philippe Saint-André, Denis Charvet, Simon Dutin, Fred Weiss. On est très heureux évidemment d'être avec vous jusqu'à midi. Vous êtes nombreux à nous écouter en podcast. On a battu un nouveau record. Donc merci de votre fidélité et merci de continuer à nous écouter toujours aussi nombreux. Également en direct, on est en direct jusqu'à midi. Dans quelques instants, nous allons poursuivre nos débats. Le bras de fer continue entre la LFP et DAZN pour les droits télé de la Ligue 1. La semaine a été très mouvementée, on a beaucoup d'informations à vous donner. Notre championnat a-t-il encore de la valeur? On se posera la question. 10h30, Serena Williams dans la punchline des GG. La légende du tennis s'en prend à Yannick Sinner après sa légère suspension pour dopage. Si j'avais fait ça, dit-elle, j'en aurais pris pour 20 ans. Sinner peut-il encore sauver son image? Ce sera notre question. Et puis 10h45, les GG contre-attaque. Vous avez tous, oh oui, tous, bûcher, préparer un débat. Vous avez 20 secondes pour nous le vendre. On va commencer avec Fred Weiss. C'est quoi ta proposition du jour?
Ben, j'y suis, on a parlé en amont de l'émission. Tu me disais que ça manquait de sport majeur, donc je voulais parler de basket. Pour te faire plaisir, spécialement. Et je voulais parler du Paris Basketball qui s'est qualifié pour les playoffs de l'Euroleague pour sa première participation. Donc voilà, un petit peu de sport majeur dans ce monde de sport mineur.
Ah non.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Fred.
On s'en fout pas.
Non, c'est très intéressant.
J'attends largement la proposition de Simon Dutin. Celle-là, elle me plaît.
Déjà. C'est vrai qu'il a pris des risques. Vas-y, Simon.
Écoutez, moi, j'ai envie de parler du sport qui trend le plus actuellement dans le monde, le golf, évidemment, en pleine mutation, en pleine ébullition. On a appris récemment qu'il y aurait des épreuves mixtes lors des prochains Jeux Olympiques. Par équipe, format.
Pour changer un peu la formule.
Je ne sais pas si je vais m'en remettre, Simon, de cette information.
Donc, on pourrait voir Céline Boutier avec Mathieu Pavon contre Scotty Scheffler et Nelly Korda. Voilà, de quoi pimenter un petit peu des épreuves qui ont déjà un petit peu hypé, même les gens qui ne s'intéressaient pas au golf. Est-ce que ça va vous inciter à vous intéresser au golf, Fred? On a bien compris que ça
Alors, concrètement, je ne connais pas une des personnes que tu as citées.
Peut-être certains amoureux de sport vont avancer cette
année. Tu vas finir quatrième.
Mais votez Simon Dautin sur le compte X des grandes gueules du sport. Bravo. J'en profite pour vous parler du Practice RMC, le podcast golf de référence avec la semaine incroyable autour de Rory McIlroy. Il y a eu un nombre de téléchargements complètement dingue. Vous pouvez y aller. Évidemment, ça sort deux fois par semaine.
Aussi,
le lundi et le vendredi, c'est le Practice RMC.
Ça fonctionne.
Ok, bon, on propose quoi là?
Alors, Mbappé, parce que.
Ah oui, la facilité.
Pourquoi Mbappé? Non, pas facilité, c'est le momentum dont parle Simon. C'est-à-dire qu'il y a deux mois, on croyait que le Mbappé était revenu, le Mbappé de 2018-2022. On croyait qu'il était là, qu'avec ses cannes, ses but, et bien finalement ça a fait pchit, c'est une illusion, mais je me demande moi si on le reverra un jour stratosphérique.
Ok, très bien, c'est ta proposition, Philippe Saint-André, un peu choqué par la proposition de Denis.
Denis, voilà, il veut gagner, c'est du populisme.
c'est
du populisme.
Philippe, c'est choquant.
Sincèrement, Simon parle de sa passion le golf, Fred de sa passion le basket. Moi, je vais parler de ma passion le rugby, et Denis, lui, voilà, il veut des votes pour des votes. Il n'a rien à branler, mais il veut qu'on vote pour lui. Sincèrement, s'il pouvait avoir que 5%, ça serait très très bien.
Vas-y, sois bon là maintenant.
Voilà, alors moi, pourquoi ? Je vais parler bien sûr de rugby. Le 15 de France, doit-on tout faire pour emmener les titulaires en Nouvelle-Zélande ? Il y a une tournée au mois de juin en Nouvelle-Zélande et surtout il y a des joueurs exceptionnels, Ntamack, Aldrit, etc., qui n'ont jamais joué en Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'il faut les emmener ou pas ? Votez pour moi.
Ok, c'est début juillet, c'est court, c'est sexy, c'est bien vendu. Bravo, mon cher Philippe. Tiens, je vous donne une tendance. Pour l'instant, après une centaine de votes, ça vient tout juste d'être mis en ligne, évidemment. Il y a 50% pour un débat. D'après vous, c'est pour qui ?
C'est pour Fred.
Pour le basket, évidemment.
C'est Fred pour l'instant. Oui,
ça va dégonfler très vite.
Il y a 20% pour toi pour les titulaires en Nouvelle-Zélande.
Parce que c'est une belle proposition.
19%
Philippe.
Pour le retour du grand Mbappé et 14% pour l'instant pour le golf.
J'ai peur que Mbappé, déjà, ils en veulent plus.
Ils en veulent plus du Mbappé.
Là, j'en veux plus. Je vous ai fait plaisir, mais bon.
Ok. Sachez qu'à partir de 11h, restez bien avec nous. Bernard Hinault, légende du cyclisme, sera avec nous dans le studio RMC. On va lui poser beaucoup de questions et puis on se posera aussi notre question. Il devra rentrer dans notre débat. Est-ce que le cyclisme aujourd'hui a encore besoin des Français. Je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais cher GG. Allez, on débute cette nouvelle heure avec cette citation de Daniel Webster, pardonnez-moi, qui a dit un jour, ce qui a de la valeur n'est pas neuf, et ce qui est neuf n'a pas de valeur.
RMC, le bras de fer GG.
Et voilà, on a les droits.
De toute façon, je suis contraint, c'est de la merde.
Jean-Bert.
Pourquoi ils se plaignent au tribunal? Et parce qu'ils ont fait de la merde depuis le début. Et
il
continue d'en faire.
Ouh là 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 là.
Our product on television right now, globally, it sucks.
Ils se sont bourrés sur leur business plan. C'est les seuls au monde à imaginer qu'ils feraient 1,5 million d'abonnés avec le produit de dos qui nous livre.
It sucks.
John, stop talking. You don't understand anything.
Si on n'a pas le plan B, on est mort.
Guys, non. Can I tell you something? This is bullshit.
C'est la NASA, là.
Ah oui, là, c'est de la grosse production, là. Ils vont certainement se séparer. Mais quand, comment et pour combien? La crise des droits télé est encore montée d'un cran cette semaine. La LFP a acté l'idée d'une séparation avec le diffuseur d'Azone. Et ce diffuseur a tout de même rejeté cette proposition. La médiation a donc échoué. Le conflit, lui, continue. C'est donc le flou le plus total pour la saison prochaine. Notre question, à l'heure où nous avons un club français en demi-finale de Ligue des Champions, à l'heure où nous avons eu un club français quasiment en demi-finale de la Ligue Europa, il y a un championnat qui est quand même assez sexy tout de même, avec cette lutte intense pour la deuxième place. La Ligue 1 a-t-elle encore de la valeur? C'est notre débat dans le coin gauche, la Team Oui, représentée ce matin par Simon Dutin, et Philippe Saint-André dans le coin droit, la Team Non, Denis Charvet, Fred Weiss. Pour l'instant, c'est du 66% non. La Ligue 1 n'a plus de valeur, 34% oui. Philippe, Simon, vous allez débuter dans quelques instants. Avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, Arthur Perrault. Salut Arthur.
Salut messieurs, bonjour à tous.
Salut Arthur.
Alors,
salut.
On en a parlé beaucoup, ce devait être une semaine décisive, mais le feuilleton est loin d'être terminé, il y aura encore beaucoup d'autres épisodes.
Oui, tout commence mardi, jour de la fin de la médiation entre DAZN et la Ligue de football professionnel. Pour prolonger la collaboration, le diffuseur propose de retransmettre tous les matchs, donc de récupérer celui actuellement diffusé par beIN Sport et revoir à la baisse le contrat avec une part fixe et une part variable. Mercredi, la Ligue organise un collège Ligue 1 et un conseil d'administration. Les deux actent ce qui était la grande tendance, une rupture en fin de saison avec le média britannique. Montant de l'indemnité pour casser ce contrat, entre 110 et 125 millions d'euros. Mais coup de théâtre, mercredi soir, DAZN refuse cette proposition du médiateur. Le contrat continue, comme tu le disais, JC. Le contentieux aussi. Prochain rendez-vous le 30 avril pour s'assurer que la plateforme va bien honorer le paiement de son échéance des droits. En parallèle, la LFP devrait développer son projet de chaîne avec un objectif clair: trouver une solution de financement pour les clubs et éviter l'écran noir en début de saison prochaine dans 4 mois.
Et c'est l'une des informations de ces dernières heures. Canal+ pourrait bientôt revenir dans la danse.
Oui, interrogé par nos confrères du journal L'Équipe, le patron de Canal+, Maxime Saada, se dit prêt à revenir à la table des négociations. La raison, l'intronisation à venir, vraisemblablement mercredi, de Nicolas Taverneau au poste de directeur général de LFP Média. Le mettre autour de la table comme interlocuteur, c'est un bon moyen de me faire revenir sur le sujet de la Ligue 1. On peut dialoguer avec lui et je le ferai, mais je n'oublie en rien le préjudice qui nous a été causé lors du précédent contrat, lâche le dirigeant de la chaîne cryptée.
Merci beaucoup Arthur Perrault, tu restes avec nous évidemment. Pour ce débat, la Ligue 1 a-t-elle encore de la valeur? C'est du 66, 34, 66% non. Les camps du oui, vous avez un petit peu de boulot, Simon Dutin, tu commences. Pourquoi oui?
Oui, elle a une certaine valeur. Déjà, il faut arrêter avec le miroir aux alouettes. Il faut arrêter de se faire croire que ça vaut 1 milliard par renégociation à chaque fois. Je pense que les présidents, ils en sont conscients dorénavant, ont eu les yeux plus gros que le ventre et que ils ont été incités à y croire. On va pas rappeler le fiasco Mediapro, mais même là, au début de la renégociation, voilà, on en voulait trop, on est trop gourmand. Mais cela étant dit, je pense que la Ligue 1 a toujours été, alors d'abord au plan sportif, un laboratoire. On a ce savoir-faire. Voilà, c'est une pépinière de jeunes talents qui est complétée depuis quelques saisons par certaines stars, grâce au Paris Saint-Germain. Mais pas seulement, il y en a aussi à l'OM, à Lyon.
Tu la vois là-bas, la Ligue 1 ?
Je pense que il faut améliorer. Et là, je pense à notre ami Cyril Linette, qui en parlait souvent, que je salue, le produit, voilà, au bout d'un moment c'est du business.
Mais le produit, il vaut rien aujourd'hui.
Il faut arrêter avec.
Tu parles de prix.
Il faut arrêter d'aller chercher.
Valeur,
il faut arrêter. Il faut arrêter de parler au maximum d'interlocuteurs possibles. Voilà. Il faut parler à des gens sérieux qui savent ce qu'ils font. Et en effet, je pense qu'un diffuseur étranger, a priori, le modèle économique de la Ligue 1, il n'est pas
il n'est pas assez solide pour lui. Il faut profiter de ce moment pour créer des trucs, s'inspirer de ce qu'on fait aux États-Unis avec la NFL, avec la NBA sur les sites officiels. Il faut que la Ligue s'approprie en fait la production de son produit.
Et je pense que
qu'elle a de la valeur en fait, mais il faut cette valeur, il faut la faire émerger. Si justement, demande à De Taverneau, c'est pas un philanthrope. Je pense que il va faire beaucoup de bien à la LFP parce que il connaît à la fois la production télévisuelle, il connaît à la fois le foot parce qu'il a été dirigeant de la boîte qui possédait les Girondins de Bordeaux.
Ouais.
Et je pense que ça va faire du bien parce que tu dis ok, tel diffuseur n'a pas transformé notre produit, n'a pas valorisé notre produit. Bon voilà, il faut que la Ligue prenne ses responsabilités et muscle un petit peu son département média pour faire quelque chose. Mais il y a évidemment de la valeur à en tirer. Okay. Évidemment que la Ligue 1 a de la valeur.
Mais la valeur, je ne comprends pas. Tu remets tout en question alors que Canal a fait un travail extraordinaire pendant des années. On s'est tiré une balle
dans le pied. Mais tu crois que Canal, il reviendrait si la Ligue 1 n'avait pas de valeur? Tu crois que Canal.
Oui, ils vont venir par son même prix. Donc, ça a plus de valeur.
Denis est en train de m'expliquer que les étrangers sont très forts, que les Américains, tout ça, sont très forts. Mais Canal était très fort. Je suis désolé, la Ligue 1, tout le monde l'a regardé sur Canal. Il y avait des audiences extraordinaires.
Bien sûr.
Donc c'était pas forcément que la Ligue 1 était sportivement très forte.
Mais elle était bien traitée.
Elle était bien traitée, elle était bien présentée, c'était un beau produit. Et là, je reviens à ce que tu dis, effectivement, on parle de produit. Et pour vendre un produit, il faut qu'il ait l'intérêt. Il faut qu'il y ait l'enveloppe aussi. Et en partant de Canal, eh bien, l'enveloppe, il n'y a plus d'enveloppe. C'est-à-dire que tu n'avais plus qu'un match de football, un match de football que tu regardais, on te le proposait comme ça.
Mais il n'y a plus de paquet cadeau.
Il n'y a plus de paquet cadeau. Et du coup, au débat, je suis désolé, on ne peut pas répondre qu'elle a la valeur aujourd'hui.
Mais je suis pas sûr que si Canal revenait dans la danse et produisait la Ligue 1 comme il l'a produisait il y a quelques années, ça marcherait aussi bien.
Mais parce que
j'ai plus de valeur. Toi-même, tu es en train de.
Non, parce que les attentes des gens à qui tu t'adresses ont changé. Les gens, on s'en rend compte, ne sont plus tout à fait disposés à se cogner 90 minutes d'un 0-0 entre Brest et Reims. Il faut leur proposer autre chose. Il faut leur proposer des expériences immersives. Et c'est d'ailleurs un écueil. Non, mais c'est un écueil auquel se heurte le diffuseur actuel parce que justement c'est en partie ce qui a fait naître le conflit avec la Ligue parce que DAZN reproche aux clubs de pas jouer assez le jeu et en effet il faut que les clubs finalement lâchent un peu du lest. Il faut qu'on puisse avoir des insides, il faut qu'on puisse avoir à nouveau des histoires racontées par les joueurs qui ont verrouillé leur communication, qui donnent plus grand chose et en effet il faut que la Ligue là aussi en partenariat avec les clubs comme ça se fait en NFL ou en NBA instaure, je sais pas si c'est des clauses dans les contrats, tu joues en Ligue 1 mon gars, et tu dois donner un peu de ton temps aux médias.
Canal,
tu dois
c'était fait naturellement
mais c'est surtout que j'écoute le discours de Simon, il est en train de nous expliquer que ça pourrait valoir quelque chose si on changeait tout, donc ça veut dire qu'à l'instant T ça vaut rien. Ça veut dire que, justement, personne s'est battu pour avoir la Ligue 1. Tu dis, oui, pourquoi on a pris quelqu'un de l'étranger, de l'étranger, etc., avec DAZN. Sauf que, au final, pourquoi? Parce qu'on avait que ça, parce que ça te valait déjà très peu, et qu'on se retrouve dans une situation où ça a encore baissé. Et Canal, oui, peut-être que Canal, en refaisant le taf qu'ils ont fait, on va revenir à une vraie valeur de la Ligue 1. Sauf que, pour l'instant, c'est encore. Donc t'es d'accord
c'est
avec
pas
tout.
Sûr, mais c'est la seule sortie potentielle.
Ce n'est qu'hypothétique. Il n'y a aucune certitude.
Moi, je pense que la solution, elle viendra de la Ligue elle-même. C'est à la Ligue elle-même de construire.
Si tu changes tout, ça peut valoir quelque chose à l'instant T, non.
Il y en a un qui voit peut-être d'un mauvais œil le retour de Canal, peut-être en Ligue 1, parce que ça pourrait éclipser son rugby. Quand rugby quand qu'il aime tant, Philippe Saint-André.
Ouais, c'est pour ça, le foot, elle a de la valeur, oui, mais à un juste prix. D'abord, il faut pouvoir le voir, il faut un accès facile. Mais les dirigeants de foot, on les a entendus, ils sont inquiets. Ils sont inquiets pourquoi ? J'ai le top 5 des audiences de sport en télévision en 2025. C'est la première fois dans l'histoire. Numéro 1, rugby, France-Écosse, 9 millions et demi. Numéro 2, rugby, Angleterre-France, 8,1. 3, France-Galles, rugby, 6,7. 4, rugby, Irlande-France, 6,5. Et cinquième, France-Croatie, 6,3. C'est la première fois depuis 100 ans que le foot.
Oui, mais là, c'est pas la Ligue.
Après, c'était F1.
Mais je t'explique pourquoi. Pourquoi ? Parce que le championnat de foot, on ne peut plus le voir. On ne le voit plus. Canal Plus avait fait un boulot exceptionnel. Les dirigeants du foot ont été. Ils ont voulu le vendre au mauvais prix. Ils se sont coupés quelque chose qui était exceptionnel. Et là, non seulement on le voit plus, mais maintenant aussi sur les chaînes gratuites, il ne fait plus.
Donc t'es avec nous alors ?
Mais non, mais elle a de la valeur, mais une valeur qui a juste prix,
une valeur raisonnable.
Voilà. Et si elle a plus,
et de nouveau intéressé, bien sûr qu'ils sont intéressés.
Et bien sûr, qu'il y a un potentiel, parce qu'il y a un énorme potentiel.
Mais il y a deux choses. Il y a deux choses à savoir, et il y a une prise de parole. Souvenez-vous dans le fameux extrait qui avait fuité dans complément d'enquête, qui était très intéressant, de Joseph Augourlion, le président de Lens, qui disait aujourd'hui, selon lui, la Ligue 1 vaut entre 150 et 200 millions d'euros. C'est un peu la fourchette aujourd'hui qui est donnée par tous les professionnels du secteur qui bossent dans le milieu des acquisitions. L'autre chose à savoir sur Canal+, parce qu'on vous en parlait beaucoup suite à cette prise de parole hier, attention, d'abord un, Maxime Saada est vraiment très malin et est toujours très fort en communication, et de deux, Canal+ est entré en bourse, la situation financière de Canal+ n'est pas aussi confortable qu'on peut l'imaginer, et rien ne dit que demain, les clubs de Ligue 1 vont rouvrir leurs portes, vont rouvrir leurs vestiaires comme c'était le cas pendant l'âge d'or de Canal+, où ils avaient un accès à tout. Et souvenez-vous notamment à Laurent Paganelli qui allait toquer à la porte du délégué et qui rentrait dans le bureau du délégué.
Mais pourquoi il ouvre la porte aujourd'hui, Maxime Saada, après toi?
Mais il ouvre la porte, Denis. Il te dit juste. Non, attention. Il te dit juste qu'il a quelqu'un, avec lequel il s'entend bien, qui arrive à la Ligue et qui va donc l'amener à rediscuter sur la Ligue 1. Il te dit pas que demain il va remettre 150, 200 millions d'euros sur la Ligue 1.
Il se rappelle du préjudice qui s'est passé.
En plus.
Ça, c'est pas un très bon signe non plus pour la Ligue 1.
Attention, Denis. La nuance, elle est hyper importante. Encore une fois, c'est un communicant.
C'est pas encore signé, mais je pense que la Ligue, ils vont sauter sur l'occasion, ils vont essayer de s'entendre et trouver un accord avec Canal. Et si jamais Canal ouvre vraiment la porte, parce qu'encore une fois, on ne le sait pas aujourd'hui.
Et je vois pas comment la Ligue pourrait se permettre de dire non, on n'ouvre pas les vestiaires. Par contre, à un moment là, ce serait vraiment.
Aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, c'est le cas.
On rappelle évidemment qu'il y a un énorme litige entre la LFP et DAZN. Que tu l'as dit, Maxime Saada, s'il fait cette sortie.
Il est très malin.
C'est aussi peut-être pour perturber un petit peu ces négociations, pour perturber cette médiation.
Oui, c'est pas neutre dans le contexte d'arriver là.
C'est pas neutre dans le contexte. Mais c'est vrai que tout le monde se remet à y croire, même si la LFP travaille aussi sur toujours la création de sa propre chaîne.
Oui, mais sauf que la problématique d'une chaîne, c'est la rentrée d'argent immédiate. Et sauf qu'on l'avait vu lors du dernier projet, du dernier appel d'offres, il faut attendre 2 ans, 3 ans. Est-ce qu'aujourd'hui des clubs comme Le Havre, Montpellier, même si Montpellier va sans doute être relégué, c'est même acté. Est-ce que ces clubs-là peuvent se permettre d'attendre 2-3 ans? Je ne suis pas sûr.
Et puis sa propre chaîne peut être piratée aussi. C'est qui est le vrai problème aujourd'hui quand même chez DAZN.
Donc Denis, s'il y a piratage, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt. Sinon, il n'y aurait aucun piratage. Donc, il y a de l'intérêt. Et donc, quand il y a de l'intérêt, ça a une valeur.
Évidemment, toutes les informations sont à retrouver sur rmcsport.fr autour de ce débat.
Vas-y, évidemment, Philippe, que le foot intéresse.
Bien sûr.
Mais évidemment, mais quand ça intéresse, mais la moitié de ceux qui le prennent, c'est parce que c'est gratuit. Ils ne veulent pas payer 50 balles d'abonnement par mois.
Merci, Denis. Enfin, t'es d'accord avec nous.
D'accord avec vous. Et ça ne vaut plus rien. On est d'accord.
Vraiment, le mot de la fin.
Pour terminer, j'ai beau être à la place de tonton Cessieux, et donc être le vieux de la bande. Moi, je pense que l'avenir, là, on parle de télé, comme des dinosaures. Moi, il m'est arrivé d'intervenir en école de journalisme. Mes élèves, ils ont pas la télé. Voilà, ils regardent pas la télé. Quand ils regardent le JT, par exemple, ils ne le regardent pas sur la télé.
Tablette.
Donc, tant qu'on va se faire croire que le foot et la Ligue 1, ça se consomme sur une télévision, on aura 15 ou 20 ans de retard.
Mais
voilà, une partie de la solution, elle réside dans le digital et dans les solutions que le numérique, le digital et que la tech peut apporter aux produits Ligue 1.
Il est en train de déposer son CV pour LFP Média. Bravo,
Nicolas, je suis disponible.
Et en plus, c'est un Girondin.
On est de Bordeaux, Nicolas.
Exactement. Il l'appelle Nicolas, carrément. Je l'appelle Nicolas. Nicolas
Bénivre. Simon Bénivre.
Qui fait partie de la maison, toujours, les amis. Évidemment.
Bon, le résultat, par contre.
Le résultat, c'est Philippe qui a gagné, on vous l'a dit. Philippe a gagné. Bravo, Philippe.
Bravo.
Allez, 10h27. On se retrouve dans quelques instants avec Serena Williams, icône du tennis, qui égratine Yannick Sinner. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h31 de retour dans les grandes gueules du sport avec Fred Veil, Simon Dutin, Philippe Saint-André, Denis Charvet à partir de 11h. C'est l'événement sur RMC dans les grandes gueules du sport. Notre invité exceptionnel sera avec nous dans le studio. Bernard Hinault, légende du cyclisme français, est avec nous. Vous savez qu'on fête cette année les 40 ans ? Les 40 ans de quoi ? Ouais. Alors demain, en fait, les 60 ans de Christophe Cessieux, mais ça n'a rien à voir. Demain.
Mais les 40 ans. Non, les 40 ans de la victoire, non ?
Eh oui, sur le Tour de France. La dernière victoire française. Ouais. 40 ans déjà. Moi, Bernard Hinault sera avec nous.
Je vais me sentir un petit garçon, parce que moi, je suis sa génération.
Ben oui.
Totalement. J'avais 15 ans quand tu
l'as rencontré déjà, Bernard.
Je l'ai rencontré, mais je suis pas, tu vois, mais je suis fan.
La première question que je vais lui poser, c'est est-ce que tu connais Denis Charvet ?
Non, mais arrête, tu me fais pas honte.
Pareil.
Mais non, mais arrête, pose pas cette question, sois gentil.
C'est vrai.
On reçoit une légende vivante qui est la plus grande légende du sport français, donc arrête.
Non, gentil. Je pose pas la question.
Non, me fais pas honte.
D'accord.
Non.
Je lui demanderai s'il connaît Simon Dutin.
Tu peux.
Ah, ça, tu peux.
Alors, non, il risque, le problème, c'est qu'il risque de te répondre non, alors que je l'ai interviewé maintes fois lorsque je.
Ah oui, quoi, c'est pour ça que je.
Sur les routes du Tour de France. Voilà. C'est de très bons souvenirs.
Oh, il connaît.
Comme quoi, t'es
Bernard Hinault. Fred Weiss, Bernard Hinault, tu connais ?
J'adore. Je suis hyper fan.
Ok. Philippe.
Oui, oui.
Tu l'as rencontré aussi ?
Bien sûr. Bien sûr. Bon. Moi, je vais être petit garçon.
Ah, non, vraiment. J'aime quand t'es un petit garçon.
Non, mais je connais tout de sa carrière, tout. Vraiment. À cette époque-là, le vélo, c'était, je regardais tout, et à 15 ans, je regarde quand il démarre et qu'il fait cette chute, le col de porte qui descend, il part tout seul avec Thévenet, il tombe, et on croit qu'il a une, mais en direct, on le voit en direct, c'est incroyable, il remonte sur le vélo, il gagne.
Eh ben, il sera avec nous dans quelques instants.
C'est génial.
Le petit garçon Denis Charvet va pouvoir interviewer, comme on dit.
C'est génial.
Pas en anglais, en plus. T'es content, il est en français.
Oui.
Bernard Hinault, ce sera dans quelques instants à partir de 11h. Dans moins de 3 semaines, il fera son grand retour sur les terrains. Yannick Sinner purge toujours sa suspension pour dopage. Le numéro 1 mondial a pu reprendre l'entraînement il y a quelques jours. Et le monde du tennis est toujours perplexe sur la durée de sa suspension, jugée très clémente. C'est Serena Williams, l'icône du tennis féminin, qui a mis une pièce dans la machine cette semaine lors d'un entretien au Times Magazine. C'est la punchline DGG rapportée par notre copine Siri.
RMC, la punchline GG.
On m'a tellement rabaissé que je ne veux rabaisser personne. Le tennis masculin a besoin de Yannick Sinner. Mais si j'avais fait ça, honnêtement, j'aurais pris 20 ans. On m'aurait retiré des tournois du Grand Chelem.
Si j'avais fait ça, comme lui, j'en aurais pris pour 20 ans. Et c'est vrai que le monde du tennis n'est pas tendre avec Yannick Sinner. Peut-il encore sauver son image ? Oui ou non ? Simon Dutin ?
Oui.
Fred Weiss ?
Oui.
Philippe Saint-André ?
Non.
Denis Charvet ?
Oui.
Oui.
Deux. Là, je suis le seul.
Tu es tout seul. Tu veux commencer ou tu veux d'abord entendre les arguments ?
Non, on va.
Il y a beaucoup de défaites aujourd'hui, Philippe.
Je vais écouter.
Tu veux écouter les arguments. Voilà. C'est ton droit parce que t'es pas là tout le temps avec nous. Tu veux écouter qui ? Tiens, dis-moi. C'est toi qui choisis. Tu fais l'émission.
Fred, c'est le plus grand, non ?
Fred.
En taille. Hein.
Mais ah, mes arguments sont extrêmement simples. Quand on écoute Serena Williams, c'est pas Sinner qu'elle attaque. C'est le principe.
Oui, c'est l'institut au-dessus.
C'est Lama et Litia.
Ouais.
En fait, au contraire, elle dit que le tennis a besoin de lui, mais c'est pas de la faute de Sinner si on lui a donné cette sanction. Lui, il a purgé sa peine. Alors qu'on la valide
oui,
ou pas, c'est pas son problème. Lui, il a eu une peine, il a purgé cette peine et.
Il est en train de la purger.
Oui, enfin, oui, il aura purgé cette peine à la fin.
Fred, tu peux pas dire que c'est neutre, c'est Serena Williams. C'est l'écho,
oui,
si tu veux.
Oui, mais je suis d'accord, mais l'écho,
il est énorme. Je suis désolé dans le
rugby. Sauf qu'elle parle pas de lui.
Oui, mais d'accord, mais elle intervient.
Ce qui est curieux, c'est que du dopage dans le tennis, mais elle ne parle pas de Sinner.
La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi elle sort ça maintenant. Voilà. Elle, parce que tu la vois jamais dans les médias, on la voit plutôt dans des trucs people, mais dans le tennis, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu. Là, ce n'est pas gratuit, je suis désolé, c'est quand même très fort.
Mais je suis complètement
même
d'accord
si
avec
elle
toi.
Dit qu'elle refuse évidemment tout acharnement contre Sinner, et vous l'avez entendu, on ne vous a pas passé tout l'extrait, mais elle ne veut pas s'attaquer à lui directement, ça tu as raison Fred, mais elle dit quand même que. Bah ça l'étonne et ça étonne tout le monde dans le tennis.
Honnêtement, quand tu regardes le tennis, en quoi tu peux dire c'est de ma faute et c'est dopé. Il a été chopé.
Non,
oui, c'est dopé.
C'est pas
il a
fait dit...
présomption de s'être dopé.
Fred,
il a été chopé, il purge une peine.
Mais non, Fred, entre les lignes,
c'est une peine pour contamination extérieure.
Oui, mais il a expliqué.
Mais entre les lignes, c'est pas ce qu'elle veut dire. Entre les lignes, ça veut dire qu'en gros, il est passé au travers des mailles du filet. Je suis désolé.
D'accord, mais une nouvelle fois,
et que c'est pas normal.
Et que c'est pas normal. Et que 3 mois, c'est rien, en fait. C'est ce qu'elle dit.
Mais je suis d'accord.
Mais pour en venir à l'image, parce que j'ai dit oui, je pense que le monde du tennis ou le monde du public, à partir du moment où il a que 3 mois, il s'est déjà oublié pour moi. Si là, c'est juste le problème de la punition en fait. C'est-à-dire qu'il a eu deux ans par exemple, là ça aurait pas été pareil. Là, je veux dire, le fait qu'il ait pris que trois mois, ça relativise tout par rapport au grand public, par rapport au tennis.
Aussi,
et que tu verras, et son image ne s'en ressentira pas. Moi, c'est mon sentiment.
Mais ils s'en rappelleront même pas. Effectivement, c'est tellement court que tu t'en rappelleras pas.
Oui,
il va faire des performances.
S'il avait pris deux ans, je pense que là, quand même, ça aurait été terrible.
Vous avez déjà pris un goré pour ne pas faire?
Non, mais ce qui est incroyable, ils sont d'accord, mais ils font la guerre, déjà. J'ai jamais vu ça. Et vous êtes dans le même camp.
C'est du velours.
Et attends, pour l'instant, je dis rien. Fred et Denis, déjà, ils se bouffent le nez. Non, mais c'est incroyable. Non, mais je vais laisser aussi Simon. Denis va pas s'engueuler avec Simon.
C'est du gâteau de combattre contre Denis. Oui, oui, t'es pas en train de refuser le débat quand même.
Non, du tout.
Non, tu refuses pas la baston. Bah, vas-y, Simon, pourquoi oui, il peut encore sauver son image?
Parce que la chance de Sinner, c'est qu'il a pas d'image. Voilà, il a le charisme d'un chipiron, comme on dit.
D'un bulot.
Il est fantomatique et il ne parle à personne. Mais ça sort là dans la rue, tu tends le micro, tu dis Yannick Sinner, personne sait qui c'est. Donc c'est ça sa chance, c'est que il a pas d'image à redorer comme on dit. Parce que si tu prends
comme Federer, par exemple.
Non mais je veux dire à ce moment-là, si tu m'expliques que c'est impossible parce qu'il a pris trois mois de suspension et qu'encore une fois il est admis que il ne s'est pas dopé volontairement, si tu m'expliques que ce gars-là peut pas redorer son image alors qu'un Zverev, qui est encore en procédure pour accusation de violence conjugale. Il y a eu deux accusations. Et, lorsqu'il a eu fait des matchs extraordinaires, tout le monde salue la performance, le géant allemand, formidable. Il y a un narratif autour de celui qui peut incarner, parmi d'autres, la relève du tennis après les Federer. Je veux dire, Connors, quand j'étais jeune, il avait été accusé de propos macho ou sexistes ou misogynes. Nastas, pareil, bon, c'est resté des légendes. Les mecs Agassi, Sharapova, ils ont été convaincus de dopage. C'est resté des icônes, des légendes. Bon, encore une fois, on en revient toujours à la force de l'émetteur. Voilà. De qui parle-t-on? Quelle est son image auprès du public? Et en effet, la difficulté à redorer ton image, elle est fonction de la déception que tu as provoquée, de la stupeur que ce qu'on te reproche a provoqué parmi le public. Donc, forcément, Sinner, il part de zéro. Il n'est pas descendu très bas. Et voilà, s'il fait des exploits à Roland-Garros, à l'US.
Ça, s'il construit des
matchs légendaires qui restent dans la mémoire collective des amoureux de tennis, je peux te dire que les gens, ils en auront rien à faire qu'il ait été convaincu de trop d'un petit, voilà.
En plus, son sport, ça l'aide beaucoup aussi. Ça serait du cyclisme, il serait mort. Concrètement, faire du tennis, tout le monde te dit, ouais, c'est pas si grave que ça. Et en plus, comme c'est très court, franchement, il n'y a aucune attaque sur lui, sur la personne.
Sachez, avant de laisser la parole à Philippe, si tu as envie de parler, Philippe, tu me dis. Sachez qu'on vous prépare, pour la semaine prochaine une heure exceptionnelle, spéciale dopage, avec le directeur de la médecine de l'AMA, justement, qui viendra nous expliquer le cas Sinner. Donc, soyez bien présents au rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera dimanche et ce sera passionnant, évidemment. Une heure spéciale dopage dans les grandes gueules du sport. Oui, Philippe, vas-y.
Ben déjà, ça sera toujours sur son CV. Donc, à partir du moment où tu mettras Yannick Sinner, eh bien, tu verras qu'il a été pris pour dopage. Donc, ça ne s'efface pas. Deuxièmement, où je suis un petit peu d'accord avec Simon, c'est que je trouve qu'il manque un petit peu de charisme. Pourtant, c'est un joueur de tennis qui est exceptionnel. Et par contre, voilà, il a des bons avocats. Il a mis beaucoup, beaucoup d'argent dans sa défense, mais ce qui est insupportable, et Serena Williams l'explique bien, c'est que elle aurait pris 20 ans, que je sais qu'il y a une fille qui a eu exactement la même chose et qui a pris 2 ans.
Il y a eu Simona Halep, voilà. Évidemment.
Simona Halep, pas Sharapova aussi. Sharapova, elle a pris 18 mois. 15 mois au final,
non, 18 mois.
Après, ouais, mais,
18 mois. Et sincèrement, je trouve que c'est pas normal du tout. Qui prennent que 3 mois, non, et surtout en plus dans un calendrier où il a loupé pratiquement rien. Mais après, de toute façon, à un moment donné, ça restera à vie. On parlait des jeunes générations. Tu parlais, regardez pas la télé, mais maintenant c'est sur les tablettes, etc. Ils vont aller tout de suite Sinner et ça va arriver. Donc tu peux pas dire que non, les gens vont oublier. À un moment donné, quand il y a quelque chose dans une carrière, tu peux avoir une carrière
exceptionnel. Quand il y a un moment compliqué, un moment noir, ça reste dans le subconscient des gens. Voilà.
Moi, je suis pas sûr. Je pense que justement, sa carrière lui permettra de le faire oublier. Le fait que ce soit si court, ça lui permet d'oublier. Mais c'est surtout que, une nouvelle fois, je crois qu'on est tous d'accord. Le problème, c'est pas Sinner, hein. Parce que Sinner, lui, il a été dopé. Et s'il avait pris 2 ans, il devait juste fermer sa bouche. Sauf qu'il prend pas, 2 ans.
C'est parce qu'il s'est bien défendu.
Le problème, peut-être, dans le tennis, c'est plus les instances. Et c'est là que c'est critiqué par Serena Williams, son propos en tous les cas.
Moi je pense que s'il gagne beaucoup de tournois, qu'il enchaîne les grands chelems, on oubliera tout.
Mais bien sûr.
Tu n'oublies pas. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec Philippe. Maintenant sa carrière, maintenant demain que ce qui va arriver, ben il effacera petit à petit. Il gagnera et puis il continuera à gagner parce que c'est le meilleur aujourd'hui.
Bon, il va faire son retour début mai pour le tournoi de Rome. Et comme je vous le disais, la semaine prochaine...
Chez lui, à la maison.
Exactement, on va ouvrir un chapitre dopage justement dans cette émission avec Lama qui a accepté de participer à cette émission durant une heure. On recevra aussi le professeur Jean-Claude Alvarez qui vient en aide aux sportifs qui justement ont été pris pour contamination, notamment Isa Horatibus. Bref, une émission exceptionnelle qu'il faudra écouter la semaine prochaine.
Oui. Il y aurait Stéphane Brun, il dirait, on reçoit Bernard.
Pourquoi?
Pour la main.
Bernard.
Oui, mais écoute. Et comme quoi, on est deux à bien connaître Stéphane Brun.
On rend hommage à Stéphane Brun, quand même.
Lama, évidemment, l'agence mondiale antidopage. Oui, hein, évidemment, pas l'animal qui crache partout, ni le gardien de but, ni le chanteur. Voilà. Bien, ça, tout est fait, toutes les 20 sont faites, c'est bon. Bon, il est 10h43, on va passer à autre chose parce que là, c'est le grand moment. Enfin, à partir de 11h, c'est vraiment.
Je sens que j'ai perdu.
C'est vraiment le grand moment parce que Bernard Hinault sera notre invité exceptionnel. Mais dans quelques instants, ce sont les contre-attaques. Vous avez. Vigoureusement défendu un débat. Il y en a un qui sort du lot. Mais alors largement, largement. À tout de suite pour connaître la réponse sur RMC.
Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC.
14h30, rugby top 14, Pau UBB, suivi de 4 matchs en simultané. Et dès 17h, football, la 30e journée de Ligue 1, avec PSG Le Havre. À 19h, Monaco Strasbourg. Et à 21h05, Marseille Montpellier.
RMC numéro 1 sur le sport.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h46, de retour dans les grandes gueules du sport avec Denis Charvet, Simon Dutin, Philippe Saint-André, Fred Weiss. À partir de 11h, vous le savez maintenant, on vous l'annonce depuis de longues heures. Bernard Hinault, c'est l'événement, sera notre invité dans le studio RMC. Il viendra débattre avec nous de vélo, évidemment. Est-ce que le cyclisme a encore besoin des Français quand on voit les duels incroyables entre Pogacar, Van Der Poel, Pogacar, Vingegaard? Est-ce qu'on a encore besoin des Français, les copains? Surtout quand on pense qu'il y a 40 ans maintenant, on gagnait le Tour de France. Mais ça, c'était il y a 40 ans avec Bernard Hinault. Il sera notre invité donc à partir de 11h. Mais tout de suite, c'est à vous de jouer, les GG.
RMC. Les GG contre-attaque.
4 propositions de débat ce matin. On salue évidemment la performance de Simon Dutin, 12% pour le golf au JO avec des équipes mixtes.
Oui, mais écoute,
mais c'est moi, bien pour parler du
golf. Attends, 12% pas d'échelle, hein, évidemment.
Non, mais 12% non. C'est beaucoup, je trouve.
Énorme. Pour Simon et pour moi, le sujet, c'est énorme.
J'aurais voté Philippe, certainement pas Denis, et encore moins.
Alors, on va voir, voilà. On va voir le résultat, mais vous pouvez aller écouter le Practice RMC si vous voulez qu'on vous parle de golf. Troisième place pour le retour du grand Mbappé, c'est pour quand, Denis Charvet, 3ème, 20%.
Ah, il fait plus recette.
Mbappé fait plus recette, c'est fini. Mbappé dans les contre-attaques.
Bah, 12% avec le golf, c'est quand même plus beau que 20% avec Mbappé.
C'est vrai. Hein.
26%, il est deuxième avec Il faut emmener les cadres en Nouvelle-Zélande.
Dommage.
C'est le rugby.
C'est pas passé, alors là, mais ça valait plus que 26%.
C'est un raz-de-marée, comme quoi on se marre sur son sport. Mais le basket fait recette.
Quelle honte.
42%,
quelle
la
honte,
folie du Paris Basketball.
C'est un sport qui est pratiqué dans le monde, Denis, pas toi.
Alors, parle-nous du Paris Basketball et de cette folie en Euroleague cette année.
Alors, je voulais rendre hommage à ce club du Paris Basketball qui a été créé il y a très peu de temps et qui progresse d'année en année. Et cette année, grâce à leur victoire en Eurocoupe, ils ont eu la chance de faire la plus belle des compétitions européennes, c'est-à-dire l'Euroleague. L'Euroleague, une compétition très difficile qui n'a pas été gagnée par le club français depuis 32 ans. On parle de passé. Le Paris Basketball a réussi l'exploit de se qualifier pour sa première année en play-off, ce qui paraît complètement incroyable. En fait, il se trouve que maintenant, on a inventé une nouvelle façon de faire les playoffs. Il y a les playoffs, donc les 6 premiers sont playoffables. Et ensuite, entre 7 et 10, on joue des matchs pour savoir qui va faire les playoffs. Et ce match sec qu'ils devaient gagner pour être en playoffs, alors ils auraient eu une deuxième chance, mais ce match sec qu'ils devaient gagner, pour être à la 7e position, c'était le Real Madrid. Aller battre le Real au Real, ce qui paraissait incroyable, impossible, je n'ai jamais vu
81-73.
Et ils ont réussi à s'imposer dans ce match, et ça leur permet, pour leur première saison en Euroleague, d'être en play-off. Honnêtement, je peux comprendre que pour vous, ça représente rien, mais là, on a deux équipes françaises, Monaco et Paris Basketball, dans les meilleures équipes d'Europe. C'est juste fantastique. On a Nadir Hifi, qui est Rising Star, donc meilleur jeune de l'Euroleague, lui aussi un Français.
Ah, lui,
donc on est super content de ça. On a TJ Short, le meneur de cette équipe du Paris Basketball.
Meilleur joueur.
Mais qui est dans le top, dans le meilleur 5 de cette compétition. On ne peut qu'être fier. Et je vais en profiter, il reste un petit peu de temps, j'ai posé la question au GG. Est-ce que le fait que le basket progresse, cette médaille olympique, le Paris Basketball qui performe, des équipes qui font de plus en plus de performances, est-ce que ça vous permet de vous intéresser un petit peu plus au basket, ou vous restez complètement enfermé dans votre sport avec un ballon ovale?
Moi, je me suis toujours intéressé au basket. Alors, tu me choisis mal.
Et puis, tu vas pas nous accuser de pas se réjouir des performances du Paris Basket. On a juste dit que ça valait pas un débat.
On a dit juste que tu ne méritais pas la parole.
La même chose. Mais excuse-nous, il y a quelques semaines, j'étais là et tu nous expliquais que oui, l'Euroleague, ça valait plus grand-chose parce qu'il fallait la NBA Europe, que ça allait régler tous les problèmes.
C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que sportivement, c'était extraordinaire, qu'économiquement, c'était compliqué.
Et Fred, t'as pas dit grand chose. Je pense que tu l'as pas trop bossé.
Tu ne pensais pas que t'allais gagner.
Non. Vous allez pas m'avoir en disant
pas
on va parler de basket. Donc
Je vais vous donner plus de basket que d'en parler. C'est une tristesse, ça, Philippe. Ça m'étonne de toi.
J'adore le basket aussi.
Alors, je vous donne le programme de ces quarts de finale. Ce sera dans quelques jours, le 22 avril prochain pour le Paris Basketball face à Fenerbahçe.
Exactement.
Là, déjà, avant de parler de Monaco, là, il y a une vraie chance, là. Et c'est en match sec aussi?
Non, c'est au meilleur des 5 matchs.
C'est au meilleur des 5 matchs,
et ça va être un match très compliqué, parce que le coach du Fener, c'est Šarjunas Jasikevičius, qui a été élu meilleur coach d'Euroleague. Donc, c'est du très, très sérieux.
Mais tu y crois pour la qualification pour le Final Four?
Honnêtement, c'est une équipe qui est très plaisante à voir jouer. Le Paris Basketball, en Espagne, il y a eu un vote pour savoir quelle était l'équipe qui était la plus plaisante à voir jouer. Et le Paris Basketball est sorti première, parce que c'est fou. Ça court dans tous les sens, ça se shoot à 3 points. Donc sur un moment d'euphorie, messieurs, je sais que vous appréciez l'euphorie dans le basket et les momentum, pourquoi pas.
Mais dis-moi, mais est-ce qu'on a connu une équipe comme ça qui en si peu de temps se réalise?
Non.
Bah, il y a eu Monaco éventuellement.
Monaco, mais avec des capitaux étrangers, ils ont tout construit à la base.
Ils sont partis de la base.
Et eux, ils sont partis en rachetant les droits d'un club de basket pour le monter à la capitale. Ils ont progressé petit à petit. En plus, ils ont le problème. Le coach est parti pour être coach de Memphis maintenant, d'ailleurs. Et c'est Thiago Splitter qui est arrivé en début de saison. Donc on se disait que le projet était tombé à l'eau. Ils sont allés chercher les joueurs de Beaune. Ils ont une grosse ossature de Beaune, ce qui a permis d'avoir une grosse ossature de joueurs d'excellent niveau. Et ça progresse d'année en année. Et c'est juste fantastique ce qu'ils proposent.
La salle, c'est quoi comme capacité?
La salle,
c'est qui 12 000
Ouais, je crois que c'est 10-12 000, un truc comme ça. Et c'est
pas magnifique.
Et elle est très jolie, c'est l'Adidas Arena, et je vous invite à aller voir, parce que les matchs sont magnifiques, l'ambiance est bonne, et le président, en tous les cas, celui qui collabore avec ça, c'est David Kahn, un expert de la NBA, donc il a amené un petit peu ce côté NBA à cette équipe.
C'est toujours plaisant à aller voir. Si vous habitez à Paris,
champs,
dans la région parisienne.
Il faut aller voir le Paris Basketball, c'est vraiment un
très bon moment, et notamment ces matchs, ce quart de finale, donc face à Fenerbahçe.
Avec un joueur exceptionnel qui est Hifi, je me régale à le voir jouer.
Oui, Nadir Hifi, c'est un joueur très particulier, vraiment, moi, j'ai jamais vu de joueur comme ça. Il est capable de prendre des shoots dans n'importe quelle position. De les marquer, c'est un régal à avoir joué. Mais moi, mon joueur préféré de cette équipe, c'est TJ Short, qui est un tout petit meneur américain, mais qui met un panier très important, notamment contre le Real, qui est un joueur incroyable.
Il n'a pas réussi en NBA ou il est trop petit pour son nom.
Mais justement, le petit fils s'était présenté à la draft, oui. C'est l'an dernier, je crois. Il n'a pas été pris. Est-ce que tu penses qu'il peut le faire?
C'est typiquement un joueur qui peut jouer en NBA, parce qu'il a cette capacité à prendre des shoots, à n'avoir peur de rien, à pouvoir défendre, avoir des cannes et avoir énormément confiance en lui. je demande à voir si dans le bon contexte, pourquoi pas. Mais il faut vraiment que le coach le veuille, qu'il ait envie de le faire jouer, parce que c'est un joueur qui a besoin du ballon pour évoluer correctement.
Alors ça commence donc le 22 avril, donc c'est dans 3 jours. Hein. C'est mardi pour Fenerbahçe Paris Basketball, et le lendemain, mercredi 23 avril, c'est Monaco qui reçoit Barcelone dans cette confrontation Monaco-Barcelone.
Monaco, c'est une équipe très solide. Alors c'est toujours dangereux de jouer contre le Barça, évidemment, hein, mais c'est une équipe très solide. Donc oui, j'espère qu'on va enfin gagner l'Euroleague. Pour moi, c'est un rêve absolu.
La finale franco-française, c'est possible ou pas?
Ouais, ça paraît compliqué. Ça paraît très compliqué, mais...
Panathinaikos face à Istanbul, dans un autre quart de finale, et l'Olympiakos face au Real Madrid.
Et le favori, c'est
Olympiakos. Olympiakos avec Français.
Avec Van Fournier.
Ok, les amis, merci en tout cas d'être venu nous voir.
Quel plaisir de parler basket.
Bravo.
Bravo Paris Basketball et Monaco pour ces quarts de finale de l'Euroleague. Il est 10h55, on se retrouve dans quelques instants. Restez vraiment avec nous, c'est l'événement. Bernard Hinault sera dans le studio RMC, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.